artistes, chanteurs, comédiens.
Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène Ouverte, le magazine de la culture régionale.
Avec Stéphane Cousinet.
Bonsoir à tous, en ce vendredi soir, bienvenue donc sur LNFM, l'émission Scène Ouverte, donc jusqu'à 21h. Alors ce soir, on a la chance, on reçoit pour la première fois dans le studio un imitateur humoriste, Gérald Daran. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous allez bien?
Oui, très bien, merci.
Merci d'être venu ce soir dans le studio de LNFM pour parler un petit peu de tout ce que vous faites. Vous avez fait plein de choses depuis de longues années.
Oui.
Et donc ce soir, on va parler aussi d'un spectacle qui aura lieu demain soir du côté d'Angoulême.
Oui.
Alors ce soir donc on va rigoler ensemble un petit peu par rapport à tout ce que vous faites. On peut avoir des imitations si c'est possible ou pas.
Oui bien sûr, pourquoi pas.
Alors Gérald Daran, donc merci encore d'être là. Alors expliquez-nous un petit peu comment vous avez débuté votre carrière en tant qu'imitateur humoriste.
Alors, j'ai eu plusieurs débuts en fait. J'ai toujours l'impression de débuter en fait, parce que l'histoire était un éternel recommencement. Donc, j'ai commencé en Charente, chez moi, où je suis né, en imitant les gens de ma famille ou les amis, ou parce que mes parents étaient commerçants. Donc, c'était l'union des commerçants. Souvent, ils faisaient des fêtes. Et donc voilà, à la fin des dîners, on sort la bête de foire. Quoi. Et puis voilà, c'est hyper rigolo de se moquer des autres ou de leur rendre hommage. Donc voilà, et puis l'imitation, c'est toujours un réflexe de gosse. De toute façon, ça, c'est les enfants d'ailleurs s'éduquent par imitation. Et puis voilà, il y a ceux qui gardent leur âme d'enfant plus longtemps. Et puis après, voilà, je me suis aperçu en regardant la télévision que des gens comme Thierry Leluron, Patrick Sébastien vivaient de leur passion. Et c'est là où j'ai réalisé qu'en imitant des gens plus connus, je pouvais moi aussi peut-être réaliser ce rêve. Et donc j'ai commencé à imiter des gens connus, c'était Charlie Chaplin. Bon, quand j'étais enfant, j'avais bien conscience que j'avais plus de chances d'impacter sur le visuel, sur le mime et que sur la voix, parce que quand on est jeune, la voix n'a pas encore mué. Et d'ailleurs, force est de constater que j'ai gardé en fait cette méthode, on va dire, si tant est qu'il y ait une méthode, puisque je travaille beaucoup mes imitations. Enfin, mes imitations viennent beaucoup visuellement, tout d'abord.
Mmh.
Et voilà. Et donc, à l'âge de 12 ans, ma grand-mère m'a inscrit à mon insu, de mon plein gré, comme on dit, au championnat de France des imitateurs amateurs à Angoulême. Et j'ai remporté le prix du plus jeune imitateur de France. Et c'est là vraiment où ma famille a pris conscience que oui, j'allais en faire certainement mon métier.
La première imitation, c'était quoi ?
La première imitation, c'était Laurel et Hardy. Là, on voit parler. Ils faisaient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oh. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il fait, je compte sur ton épaule. Mais pourquoi tu fais ça? Il dit, parce que tu m'as dit que quand j'avais un problème, je pouvais toujours compter sur toi.
Ah ouais.
C'était des trucs comme ça, voilà, des petites vannes comme ça. Mais Bon, après, c'était. Il y avait beaucoup de voix de femmes aussi à l'époque, ce que je ne fais plus, parce que voilà, là, je vous dis, après, le timbre
bien
change.
Sûr, bien sûr.
Je faisais des imitations de Denise Fabre, enfin, des choses comme ça. C'est très drôle.
Donc c'est sympa vraiment d'imiter donc des artistes, des humoristes.
Oui.
C'est drôle quand même.
Oui, oui, et d'ailleurs, il y a beaucoup d'imitateurs souvent qui font des hommes politiques, j'en fais évidemment.
Bien sûr.
Mais c'est vrai que je me suis fait remarquer à Paris en imitant des humoristes. Il n'y avait pas beaucoup d'imitateurs qui imitaient d'autres humoristes. Donc que ce soit Pierre Balmain, par exemple, dont on a un petit peu parlé ces temps-ci. Ou alors, salut, c'est Tim Seed. Il est comme ça. Bon, et donc, voilà, Régis Laspalès, le monde a fait après. Voilà, j'étais le premier à les faire et donc c'est comme ça que je me suis fait remarquer par Laurent Ruquier sur France Inter.
Voilà, donc c'est vrai que donc monter à Paris pour se faire reconnaître par rapport à ce que vous faites, c'est incroyable quand même.
Oui, j'avais vraiment l'intention de monter à Paris et j'ai pris d'ailleurs le nom de ma tante, Madame Daran, qui vivait à Ivry et qui était fan de la première heure et qui m'avait toujours dit, voilà, elle va passer toutes ses vacances chez nous, c'était ma tante maternelle, et donc les vacances d'été et tout ça, donc elle voyait bien que je voulais monter à Paris, elle m'a dit que si tu montes à Paris, tu viendras chez moi, je t'hébergerai, etc. Et malheureusement, elle est décédée l'année où je suis monté à Paris.
D'accord.
Et donc je n'ai pas pu vivre chez elle. et c'est la première personne que j'ai perdue dans ma famille, et c'était très marquant pour moi, et tellement marquant que j'ai emprunté son nom pour mon nom de scène.
Mais c'est bien.
Et voilà, et c'est en me disant que ça allait me porter bonheur.
Et ça m'a porté bonheur.
Et ça m'a porté bonheur. J'ai auditionné dans des cabarets. Voilà, je testais des petites choses le week-end, tout ça. Après, mes parents ont divorcé, donc c'était un petit peu compliqué. Et là, j'avais pas le choix que de trouver du travail.
Bien
donc, là, je suis allé un petit peu plus fort pour essayer de me faire engager vraiment dans un cabaret. Et ça a fonctionné. Et je me suis retrouvé à 17 ans et demi à déjà gagner ma vie dans différents cabarets à Paris, jusqu'à gagner ensuite un prix à Bobino, le prix du meilleur jeune comique de l'année. C'était Philippe Bouvard qui organisait ça.
Oui.
Et puis Philippe Bouvard ensuite s'est mis à produire mon one man show parce qu'il trouvait ça intéressant, hein. Et puis il a fait venir tout le métier, tous les gens du métier qui connaissaient, et il en connaît beaucoup, et dont Laurent Ruquier. Laurent Ruquier m'a repéré et m'a engagé sur France Inter. Donc voilà, à 18 ans j'étais déjà lancé, quoi.
Ouais, c'est bien.
Voilà. Mmh. Ouais, bah oui, c'est une chance. Je pense vraiment que quand on a la vocation et surtout quand on a confiance en soi, et c'est ce qu'il y a de plus difficile en fait, et quand on est soutenu, quand on a la chance quand même d'être soutenu par sa famille, ce qui n'est pas le cas de tous les artistes ou les gens qui ont du talent et qui voudraient vivre de ce métier, il faut foncer, quoi, faut y aller.
Vous avez combien de voix à votre actif, hein?
Alors une seule, c'est ça qui est incroyable. non, je sais pas en fait, c'est
ça n'est comme ça.
C'est sans limite, hein, ouais. C'est sans jeu de mots, mais j'ai arrêté de compter après 100.
D'accord.
Voilà. Mais ouais, non, c'est voilà.
C'est tellement impressionnant de vous voir en spectacle avec des voix. J'ai vu quelques concerts, quelques spectacles tout à l'heure avant de préparer cette émission.
Oui.
C'est incroyable. Les gens sont attentifs à ce que vous faites. Là, je m'en souviens, quand vous faites un medley des chansons, c'est incroyable.
Oui, oui. C'est... Alors, la chanson, ça aussi, ça, par contre, ça se perfectionne. Autant ouais. L'imitation, enfin, c'est vraiment, c'est, je pense, quelque chose d'inné. C'est pas un travail scolaire en fait. Après, ce qui se travaille, c'est le texte, le propos et l'axe, l'angle. Si on a vraiment quelque chose à dire et qu'on emprunte des voix pour passer des messages, parce que c'est intéressant de faire rire et de faire réfléchir en même temps. En tout cas, moi, c'est ce qui me plaît. Mais par contre, la chanson, il y a vraiment de la technique, et elle s'acquiert en prenant des cours. Moi, je n'ai jamais pris de cours.
Bien sûr.
Soit en allant à la rencontre du public le plus souvent possible, et c'est ce que j'ai eu la chance de pouvoir faire, puisque je faisais jusqu'à 8 cabarets par soir.
Ah oui.
Je faisais le mini, je faisais aussi, j'étais pris sur France 3 pour faire des voix dans une émission qui s'appelait Les Minicums.
J'allais venir, c'est très bien.
Voilà, où j'ai créé toutes les voix des personnages. Et c'était les guignols pour les enfants. Alors faire ça à 19 ans, j'ai commencé les Minicums. C'est génial parce que j'ai fait ça presque 10 ans, et puis maintenant je rencontre des gens qui ont été bercés par ça, et puis finalement on n'a pas tant d'écart que ça. Donc je suis un jeune Casimir, quoi, pour ouais. Mais c'était quand même très intensif, parce que je faisais les minicums le matin, j'allais entre midi et deux faire France Inter, je retournais au minicum l'après-midi, et le soir je faisais 8 spectacles, 8 fois une demi-heure. Donc ça me faisait terminer vers 2-3 heures du matin, et ouais, j'étais obligé de dormir devant le
ah
studio,
oui.
Quoi.
Ah oui, c'est clair.
Mais par contre, j'ai beaucoup appris, évidemment.
Oui,
ce sont des écoles totalement différentes que j'avais la chance de pouvoir faire, de mener de front, aussi bien donc la scène le soir, dans des dîners-spectacles. Donc en plus, c'est un public particulièrement plus exigeant et plus difficile aussi, parce qu'ils mangent, ils boivent, ce qui est maintenant devenu un peu la mode du comedy club, on va dire.
Bien sûr.
Mais voilà, et puis la radio, et puis en direct avec des pointures, hein, qui étaient toute l'équipe de Ruquier. Moi, je débarquais là-dedans. C'était une bonne école. Et puis voilà, puis les studios avec les minicums où on enregistrait 80 scénarios dans la journée. Enfin bon, c'était complètement délirant. Hein.
C'est vrai. Et Laurent Ruquier, il est comment?
Il est très bien, c'est un super pro,
ouais.
Voilà, et il m'a beaucoup appris aussi, comme Philippe Bouvard, alors là pour le coup à être très exigeant au niveau des textes, et puis à bien préparer tout son propos, non, ça a été une super école.
Alors, au début de votre carrière aussi, vous faisiez des canulars.
Tout à fait, voilà. J'ai toujours fait des canulars téléphoniques et puis j'en ai fait d'ailleurs chez Laurent Ruquier, et puis lui, il en faisait aussi avec Laurent Gérard, mais ils n'avaient peut-être pas été aussi loin que je suis allé. Puisque après j'ai été sur Rire et Chanson, et j'ai piégé pas mal je piégeais pas des gens lambda en fait, je piégeais que des gens connus. Qui avait une forme de pouvoir, soit médiatique, soit politique. Et donc, ça a un peu défrayé la chronique pour certains hommes politiques. Beaucoup de gens se souviennent, il n'y avait pas un jour dans ma vie sans qu'on m'en parle. Et c'est vrai, quoi. C'est incroyable, sauf si je ne sors pas de chez moi, mais sinon, je croise toujours quelqu'un qui me dit « Ah, on se souvient quand vous avez piégé l'équipe de France en imitant la voix de Jacques Chirac. » qui était à l'hôpital à ce moment-là et qui a demandé à Raymond Domenech et à toute l'équipe de France de chanter la Marseillaise avec la main sur le cœur. Non seulement ils l'ont fait, mais en plus ils ont gagné le match et moi avec la voix de Chirac, j'avais demandé à Raymond Domenech de sélectionner Lilian Thuram qui ne devait pas jouer, parce qu'il était blessé et qui est au départ de l'action, qui a permis à l'équipe de marquer un but et donc d'être sélectionné pour la Coupe du Monde, parce que s'ils perdaient ce match, ils n'y allaient pas. Enfin bon, voilà, ça fait un buzz, on peut dire même mondial, parce que j'ai fait à peu près 279 interviews dans la même journée à des journaux télévisés du monde entier, CNN, CBS News, Osaka TV, enfin bon, c'était complètement fou. Et donc voilà, c'est un coup de maître qu'on ne fait qu'une fois dans sa carrière, je pense.
Ça vous dit de le réécouter ce soir ?
Oui, carrément.
On écoute et on se retrouve juste après pour parler de ce qui va se passer prochainement donc avec notre invité de ce soir, Gérald Darren.
Gérald Daon.
Imitateur Gérald Daon, aujourd'hui votre mission, puisque vous l'acceptez, sera de vous faire passer pour Jacques Chirac. Le président devra piéger Zidane et Raymond Domenech. A vous de convaincre toute l'équipe de France de football de mettre leurs mains sur le cœur pendant la Marseillaise lors du match France-Irlande. Bonne chance, Gérald Daon.
Oui,
allô. Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour, c'est le président au téléphone.
Oui, bonjour, président.
Bonjour. Vous êtes à côté de M. Domenech.
Bah, je suis, c'est moi-même.
Ouais. Bon, comment va l'équipe ?
Bien, d'abord, je voudrais savoir comment vous allez.
Écoutez,
aussi important.
Eh bien, je me remets.
Petit à petit, ça va ?
Oui, petit à petit.
Vous ressortez bientôt ?
Normalement, vendredi.
Ah, vendredi.
Ouais, ouais.
Bon, bah, je vous souhaite un bon rétablissement.
Merci.
Voilà. Bah, nous, j'espère que... On est bien ? Bon, non, on est bien. Ils vivent bien, ils ont retrouvé l'envie, l'objectif, il y a un but, ils sont bien ensemble. Non, je suis, bon, on peut pas dire optimiste, mais parce qu'on ne sait jamais ce qu'ils attendent. Mais on sent qu'il y a une équipe qui est prête et qui a envie d'aller au feu, quoi. Ils sont pressés, ils sont comme moi.
Ah, ouais.
On a envie d'y aller, quoi. C'est vraiment ça.
Bon, il faut.
Oui, il faut pour tout le monde, je pense que ça serait bien. Non, on en est conscient, on est conscient de ça.
Tous les cas, je tenais personnellement à vous signifier mon soutien.
Hein. C'est très gentil, c'est même flatteur, je vous remercie.
Je pense à vous.
On y pensera, on aura une petite pensée ce soir.
J'espère. Est-ce que Zidane est avec vous ?
Il est dans l'hôtel, là. Ils sont pas là, mais je peux lui...
Passez-le-moi, oui.
Dans un petit quart d'heure, vous pouvez rappeler.
D'accord.
Il sera là.
Très bien.
Pas de soucis.
Bon, bonne chance.
Je vous remercie en tous les cas. Ça fait vraiment plaisir de se sentir soutenu.
Également.
À ce soir. À travers les images. Au revoir et merci encore.
Je vous en prie. C'est moi.
Au revoir.
Au revoir.
Oui, allô ?
Allô ?
Oui ?
C'est le président au téléphone.
Oui, attendez, je vous passe Zinedine.
Oui.
Allô ?
Allô, c'est Zinedine ?
Oui.
Bonjour, c'est le président au téléphone. Comment ça va ?
Oui, bonjour, bien, merci.
Oui, je voulais personnellement vous signifier mes encouragements pour ce soir.
Écoutez, c'est gentil.
Ouais.
Je ferai part de l'encouragement aussi à l'équipe.
Oh.
Merci beaucoup.
Comment va l'équipe ?
Bien, écoutez, on s'est bien préparé jusqu'à maintenant.
Oui.
Et je crois qu'on est prêt pour faire notre match et on espère ramener quelque chose de positif.
Ouais. Tu rames, il va jouer ?
Oui, il va jouer, ouais.
Bon, C'est bien ça.
Il a un petit peu mal, mais il va jouer.
Bon.
Allez.
Faut qu'on gagne.
On est tous concentrés.
Ouais.
Ouais.
Il faut qu'on y aille.
Exactement.
Ouais.
C'est pour ça qu'on est venu.
Je vous transmets aussi les amitiés de mon épouse.
Non, mais c'est gentil.
Ouais.
Et vous, votre santé?
Bah écoutez, ça va doucement. Mais je vais vous voir ce soir par l'intermédiaire de la télévision.
Hein. Ouais, très bien. C'est gentil de nous appeler et de nous transmettre vos encouragements. C'est très gentil à vous.
Écoutez, c'est normal.
Ouais.
Et puis, est-ce que je peux vous demander une faveur?
Oui, bien sûr.
Oh, si au moment de la Marseillaise,
oui,
vous pouviez avoir la main sur le cœur, alors
oui,
vous me feriez le plus grand plaisir, comme en 98.
On le fera.
Vous le ferez?
On le fera.
Si toute l'équipe pouvait le faire, alors?
Oui, c'est ce qu'on... On en discutera et on le fera.
Hein?
On le fera.
Au moment de la Marseillaise.
Très bien.
Pour tout le pays, pour moi.
Très bien, on le fera.
Bon, écoutez, je suis de tout cœur avec vous.
Très bien.
Et
encore une fois, du bon rétablissement à vous.
Merci, et vive l'équipe de France.
Merci, monsieur le président.
À bientôt, Zizou.
À bientôt,
au revoir.
Au revoir.
Mission réussie! Non seulement vous avez piégé Domenech et Zidane en vous faisant passer pour Jacques Chirac, mais en plus, l'équipe de France tout entière a mis la main sur le cœur pendant la Marseillaise.
Eh bien, vous avez une idée de la détermination des Bleus, main droite sur le cœur. Je crois que c'est la première fois que je vois ça dans une équipe de France au football.
Bravo, Jacques!
C'est énorme.
C'est incroyable.
C'est incroyable, mais vrai. Ouais. Et c'est. Pour les auditeurs qui ont bien écouté, vous avez vu à un moment donné, je demande à Zidane si Thuram va jouer.
Ouais.
Parce qu'en fait, dans la première conversation avec Domenech, on a volontairement, délibérément, au montage, coupé le passage où le président, le faux président, exige au sélectionneur que Thuram joue alors qu'il ne pouvait pas jouer. Et on l'a coupé parce qu'on s'est dit que ça allait trop discréditer le sélectionneur. Ça, c'est, donc, c'était la première version. Une fois qu'on s'est aperçu qu'ils n'ont jamais rien gagné avec cet entraîneur-là, en fait, finalement, on a rediffusé la version intégrale avec le passage où je lui ai dit « Il faut que tu rames, joue. » Et c'est pour ça qu'après, je demande à Zizou s'il joue. Mais c'est vrai que c'était dingue. Et quand je dis « Comme en 98 », ils n'ont jamais mis la main sur le cœur, à part la fois où je leur ai demandé. Mais en 98, c'était Emmanuel Petit qui avait mis seul pendant une fois à un match la main et non pas sur le cœur, il s'était trompé, il l'avait mis à droite et moi ça m'avait fait hurler de rire et c'est pour ça que j'ai le réflexe de dire comme en 98, mais évidemment personne ne l'avait vraiment jamais fait comme ça avec toute l'équipe, etc.
Ça, c'est quand même impressionnant, hein.
C'est impressionnant quand on a, surtout quand moi j'adore le foot en plus, ouais. Donc j'étais fan de Zidane et quand on me passe Zidane au téléphone, j'ai le cœur à 200.
Ouais, c'est clair,
j'ai le cœur à 200 et je me dis pourvu, surtout pourvu que ça marche et pourvu qu'il le fasse. Il y a aussi il y a un passage qui est coupé où je demande toute la sélection de l'équipe, ce qui est totalement
interdit
et en fait il me donne toute la sélection de l'équipe à midi, quoi. Donc, il m'explique qui va jouer tout ça et donc ouais, je me dis est-ce qu'ils vont le faire le soir même, est-ce que les vrais vont pas s'appeler entre eux, est-ce qu'on va pas vérifier ça? Non, pas du tout, et le soir même ils le font, donc c'est un truc de...
Est-ce que c'est déjà arrivé d'avoir des canulars où ça passe pas du tout
En fait on était deux à faire des canulars sur les chansons, il y avait aussi Jean-Yves Lafesse,
ouais, mm-hmm.
Et alors on n'avait pas du tout la même façon de travailler parce que lui il prenait un scénario le plus absurde ce qui soit et il l'essayait avec plein de gens jusqu'à temps que ça fonctionne en fait. Moi j'avais et c'était super drôle ce qui arrivait à garder et à faire à certaines personnes. Moi j'avais pas du tout la même façon de travailler parce que je piégeais que des gens connus,
ouais.
Donc c'était que des scénarios sur mesure. Et je me mettais une telle pression, parce que si ça ratait, c'est comme quand j'écrivais aussi pour Surprise Surprise, hein, j'écrivais les scénarios de Surprise, enfin j'étais pas le seul, on était plusieurs auteurs, si c'est planté, ben, c'est mort, ça fait c'est un client de perdu, quoi.
Bien sûr.
Et donc on pouvait pas se permettre d'en gâcher beaucoup des cartouches. Donc en fait, finalement, j'avais proportionnellement assez peu de ce qu'on entre guillemets de déchets. On jetait très très peu de choses et bien sûr il y avait des fois où ça marchait pas, mais et où on se faisait repérer. Mais globalement, sur le nombre, on en a gardé la plupart parce qu'il fallait absolument fournir toutes les semaines des canulars qui fonctionnaient. Donc il fallait une rentabilité énorme. Hein.
Combien de canulars vous avez fait?
Peu près 500.
Ah oui.
À peu près 500, ouais. Ah oui. Ouais, en plusieurs années. Hein,
bien sûr. Ouais.
Mais voilà, et donc...
Voilà. Celui que vous retenez le plus, c'est lequel?
Bah, c'est celui-là, parce qu'il est...
Il est touchant,
Oui, et puis bon, d'abord, il n'était pas méchant.
Non.
C'était un beau geste que tout le monde espérait depuis longtemps. La sélection de Thuram leur a permis de gagner, donc c'est super, c'est positif. Ils sont allés à la Coupe du Monde, et puis voilà, c'était... Et puis surtout, c'était une des premières fois où on voyait les résultats d'un canular enregistré pour la radio à la télévision. Donc il y avait un côté transmédia comme ça qui était assez assez dingue. Et puis voilà, et puis c'est encore une fois un truc que je ne pourrais pas refaire en fait, puisque ça a tellement été connu, c'est un truc qui est impossible à refaire. Donc c'est un tube, quoi.
Et à ce jour, vous en faites plus?
Ou alors de temps en temps, mais c'est très rare.
Ah, très rare. Ouais.
Oui, parce que comme j'ai fait beaucoup de choses différentes dans ma carrière artistique, je pense qu'une fois qu'on a vraiment été au bout artistiquement de quelque chose, on ne peut être ensuite que déçu et faire moins bien. Donc j'ai pas envie. Donc je préfère faire autre chose et me consacrer à des nouveaux projets.
Comme par exemple, vous avez fait un spectacle. C'était en 2005, c'était l'imposteur.
Oui, j'avais gardé, parce que j'avais cette image-là d'imposteur téléphonique, j'avais gardé, et puis en plus c'était un surnom que tout le monde me donnait, donc je trouvais ça plus original que l'imitateur finalement, parce que vraiment, quand on est comme ça dans des situations de canular, ça va très très loin la personnification, c'est pas qu'une imitation, une caricature, au contraire, on est vraiment dans la psychologie du personnage pour que l'autre y croit, et donc on incarne vraiment quelqu'un d'autre. Et les conversations, même si elles sont raccourcies, peuvent durer jusqu'à, parfois, j'ai tenu 45 minutes au téléphone avec quelqu'un pour en garder 5 minutes, mais du coup, pendant 45 minutes, on est quelqu'un d'autre, donc, et c'est pas juste pour rigoler, on a tout l'éthique de langage, la logorée, la syntaxe, on a pas mal étudié les dossiers aussi avant sur chacun, donc il y a une recherche, un travail qui est plus... Qui va plus, dans l'incarnation, et c'est pour ça que je trouvais que le mot imposture était plus fort.
Et ensuite, vous avez fait un autre spectacle qui s'appelle Sarkoland.
Voilà, là j'ai fait c'était un spectacle très original qui était axé principalement sur le président en fonction, Nicolas Sarkozy, et moi j'avais imaginé que le monde d'après, parce que c'était son slogan, serait une sorte de parc d'attractions. Et donc j'avais mis en scène, c'était un spectacle vraiment avec toute une histoire, et c'était, donc on voyait ce que donnait la France en tout cas, et le monde après Sarkozy, et c'était assez comment dirais-je visionnaire, parce que j'avais même pas fini d'écrire le spectacle, il était déjà à Disneyland quand il a présenté sa nouvelle compagne, Carla Bruni, et je l'ai vu à Disneyland, j'ai dit c'est dingue, moi je suis en train d'écrire Sarkoland, quoi. Et la France d'après, du spectacle, pour ceux qui regardent sur ma chaîne YouTube, commence quand même pas mal à ressembler à celle que... Enfin, la France d'aujourd'hui commence à ressembler pas mal à celle que j'avais imaginée, mais en sketch, moi.
D'accord.
Je pensais jamais que des ministres de la justice pouvaient se retrouver eux-mêmes en prison. Aujourd'hui, c'est possible.
On peut avoir quelques voix, la voix, éventuellement.
Écoutez, Nicolas Sarkozy, bien sûr. Il est très heureux, et vous avez vu que j'ai encore pris un an de prison, hein, un an de prison ferme, avec sursis, mais bon, on va mettre un bracelet électronique aux chevilles, moi qui voulais mettre la justice à mes pieds, ben maintenant c'est fait.
D'accord. Et Carla Gamoni, qu'est-ce qu'elle en pense?
Ah ben, on sait pas, parce qu'on n'entend rien.
Rien, ça fait pas. Voilà, donc ça c'était donc le spectacle qui s'appelle
Sarkoland. Sarkoland, ouais, tout à fait. Ouais.
Et ensuite, on vous a vu dans l'émission Vivons Dimanche avec Michel
Absolument.
Zucker.
Absolument. Ouais. Et là, c'était aussi avec un nouveau, quelque chose de nouveau dans l'imitation. C'était de l'imitation à plusieurs. Ça, c'est quelque chose qu'on a pu voir dans les guignols avec les marionnettes, mais sur scène, des imitateurs qui se renvoient des répliques et qui travaillent en fait sur scène comme faisaient les Inconnus ou sauf que là c'était avec vraiment des imitations assez pointues techniquement, vocalement, ça n'avait jamais été fait, donc ça n'a pas été simple à faire. Mais j'ai créé un concept donc qui s'appelait les 6 clones. On était 6, ouais, mm-hmm. C'était 6 clones. Et donc
jeu de mots.
Voilà, quand tu nous tiens, on se refait pas. Et puis donc voilà, j'ai repris le chemin des scènes ouvertes justement.
Comme cette émission,
des cabarets, tout ça, et des cafés théâtres avec cette bande que j'avais créée. Voilà, on s'est fait connaître au fur et à mesure jusqu'à ce que Michel Drucker soit très intéressé. Et du coup, c'est nous qui avons inauguré en fait la nouvelle émission de Drucker, Vivant Dimanche.
D'accord.
Et voilà, qui avons fait la première saison. Et puis après, on est parti au Québec avec ce concept. Et on a finalement rencontré un succès plus retentissant au Québec qu'en France. Mais bon, pas parce que... ça s'est fait comme ça. Et Gilbert Rozon, qui était le producteur, organisateur et créateur du festival Juste pour rire, avait été emballé par le concept. Et du coup, on s'est vu en fait gagner le festival là-bas. Donc c'est quand même le festival Juste pour rire, Just for Laughs, c'est un des sinon le plus grand festival du rire au monde. Il y a 1500 spectacles en compétition. Et donc nous, on a eu le trophée du festival, le spectacle événement. On avait attiré 20 000 personnes en plein air, donc c'était un véritable challenge.
Pour vous, ouais. C'était la première fois que vous partez aussi loin.
Bah oui, j'ai inventé un truc qui m'a permis de traverser l'Atlantique, quoi. Donc ouais, c'était chouette. On est allé même à New York voir. Enfin, on a fait des trucs de fou, quoi. Et là-bas, Gilbert Rozon et Juste pour rire nous ont donné des moyens colossaux ensuite pour monter un spectacle comme jamais on aurait pu monter en France, parce que les Québécois sont des travailleurs acharnés à l'américaine, très exigeants, et surtout ils sont beaucoup plus, enfin je sais pas, ils sont beaucoup plus investis, enfin moi c'est que ça correspondait vraiment à ma façon de travailler. Donc on a pu aller très très loin dans les mises en scène. On s'est retrouvé à jouer dans une salle de 2000 places tous les soirs pendant X mois, enfin bon voilà,
c'est
énorme. On était 31 sur scène avec les musiciens, les danseurs, il y a de la pyrotechnie, de la vidéo, des scènes en duplex, enfin bon, des choses qu'on n'a pas pu refaire ici.
Dans quelques instants, on va parler de ce qui va se passer demain soir du côté de Angoulême. Mm-hmm. Et là, on va parler d'un duo que vous avez fait il n'y a pas longtemps avec Jean-Jacques Goldman.
Ah oui,
c'était,
oui.
Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé avant d'écouter ce que vous avez fait.
Ouais, voilà, c'est vrai que Jean-Jacques est non seulement la personnalité préférée des Français, hein, depuis toujours, mais c'est un artiste et un être humain pour qui j'ai beaucoup d'admiration et de respect. Et puis je crois que c'est réciproque. Donc lorsque je suis allé vivre à Marseille, on était voisins, et c'est lui qui a demandé à ce que j'intervienne dans un spectacle qu'il avait créé, un spectacle caritatif, parce qu'il monte plus sur scène. Donc là, c'était un spectacle caritatif et privé en fait, pour une association qui s'occupait d'enfants. Et donc voilà, on s'est retrouvés sur scène ensemble, et il aimait beaucoup mon imitation de lui-même. Je ne le savais pas, mais voilà, je l'ai appris à ce moment-là. Et donc voilà, il m'a accompagné à la guitare en train de l'imiter. Donc ça, c'est vraiment pour un imitateur, c'est le Graal, quoi. Voilà, vous êtes accompagné par le vrai. Et puis on a mis en scène un truc assez original. C'est-à-dire que je suis rentré sur scène à sa place, le public n'était pas au courant, et je suis rentré en voix off, donc les gens étaient persuadés que c'était c'était lui. Ça, c'était, l'idée venait de lui. C'est quelqu'un qui a le sens de la mise en scène. Il a mis en scène Les Enfoirés pendant très longtemps. Oui. Donc, voilà, là, il a mis en scène un vrai enfoiré, quoi, qui a vraiment fait croire que c'était Goldman. et les gens y ont cru, mais quand ils m'ont vu arriver, ils ont fait non, c'est pas possible et tout. Et après, quand ils l'ont vu arriver derrière la guitare, bon, ils ont compris qu'on était complices. Et puis après, lui a joué aussi sur scène. Moi, j'ai fait un bout de mon spectacle. Et après, pendant Je marche seul, il m'a dit, tiens, si tu veux, tu viens faire une petite impro et tout. Et j'avais fait Sarkozy en duo avec lui sur Je marche seul. C'était complètement dingue.
À découvrir, c'est vraiment...
Il est sur la chaîne, oui. La chaîne YouTube. Ouais.
On l'écoute ?
Allez.
Et on se retrouve juste après.
Carrément.
Artistes, chanteurs, comédiens.
Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale.
Avec Stéphane Cousinet.
Excusez-moi, il y a un petit problème. Vous êtes qui
Je suis Jean-Jacques Goldman.
Non, je suis Jean-Jacques Goldman. Excusez, c'est moi. Non, Jean-Jacques Goldman, il a plus de cheveux.
Il avait.
Jean-Jacques Goldman, il est jeune.
Il était jeune.
Mais Jean-Jacques Goldman, il avait une petite cravate, il était bien habillé. Non ?
Oui, je m'étais très bien habillé. Non, il avait aussi une autre caractéristique.
Ah bon, c'est quoi ? Oh, merci, c'est bon. Monsieur Clouvert !
Je marche seul.
Se rencontrer séduit, magnifier des ciels, promettre sans le dire, juste des yeux qui traînent, pour qu'on la puisse s'obstiner, tu serais anonyme, je suis riche de ça, mais ça ne s'achète pas, je m'en fous, de tout, de ces chaînes qui portent. Seul, on nous
Ouais. Alors je vous laisse alors.
Merci beaucoup.
Gérald.
Merci.
Voilà, donc je vous rappelle que c'est vraiment incroyable. Hein,
ah ouais, c'est vraiment un souvenir mémorable. C'est pareil, c'est vraiment, je suis bien, je suis bien chanceux, comme ils disent au Québec, d'avoir vécu ça. Ouais. C'est vrai que Jean-Jacques, là, quand on l'entend, enfin chanter, quand je le réentends, là j'ai le casque, j'ai que le son, ouais. c'est génial. J'avais oublié qu'il jouait l'harmonie à la fin. C'est vraiment hyper généreux, hyper sympa de sa part.
C'est vraiment incroyable. Hein. Regardez vraiment cette vidéo maintenant sur votre chaîne YouTube. Ouais, hein, ouais. C'est incroyable. Hein. Jean-Jacques Goldman avec vous,
merci.
C'est pur bonheur. Hein.
Merci. C'est déjà un bonheur égoïste déjà, mais si c'est partagé, alors c'est formidable.
Et oui, je vous l'avais promis, ce soir, émission assez sympathique, on rigole beaucoup avec notre imitateur Gérald Dahan qui est avec nous. Vraiment, c'est sympa de votre part d'être là ce soir pour les auditeurs d'Hélène FM.
Oui, oui, vous savez, moi je suis revenu vivre dans ma région, en Charente, mais c'est vrai que je fais pas mal d'allers-retours à Paris. Ouais. Et puis quand vous m'avez contacté, j'ai dit oui, bien sûr, faut qu'on fasse l'émission pour ici. Et donc voilà, donc là j'arrive tout juste de Paris en fait, et demain je serai à Angoulême. Donc...
Ah ouais, donc vous arrêtez pas à Angoulême.
J'arrête pas, non. Ouais. Oui, parce que j'ai pris la direction d'un nouveau théâtre.
Ouais, génial, c'est très bien. Ouais. Donc ce théâtre s'appelle le théâtre de
l'Éperon, à Angoulême.
Expliquez un petit peu, donc, pourquoi vous avez décidé de prendre la direction de ce théâtre.
En fait, je suis revenu vivre en Charente au moment du Covid, comme beaucoup de gens qui vivaient à Paris l'ont fait dans le sens de s'exiler en province, sauf que moi j'y suis resté parce que moi je suis né en province, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 16 ans ici et que ma région je l'adore et que vraiment on a réalisé vraiment avec mon épouse et on s'est dit mais qu'est-ce qu'on ferait pour vivre à Paris dans c'est tellement quand on est elle aussi née en province, quand on est né en province c'est et là qu'on retrouve ses racines. Et dans des périodes comme ça, comme le confinement, tout ça, on a un petit peu réfléchi sur... on s'est posé des questions existentielles, finalement. Et on s'est dit, c'est quoi le plus important ? Et donc voilà, on s'est dit, non, le plus important, c'est quand même de profiter de la vie et des avantages qu'elle représente à pouvoir voir sa famille, être à l'extérieur aussi. Et donc voilà, donc on est resté là. J'ai pris la direction d'abord du Castel, le centre culturel Castel à Château-Bernard à côté de Cognac pendant trois saisons, enfin deux saisons et plus une que j'ai programmée mais où je n'y étais plus.
Là aussi, il fait venir beaucoup d'artistes.
Il fait beaucoup d'artistes, Patrick Bruel notamment, qui est un ami, Linda Lemay, enfin voilà, pas mal, Sophia Aram, voilà. Et puis après, parallèlement, j'écrivais une chronique dans Charente Libre qui s'appelait les fake news de Gérald Dahan, parce que le Castel me permettait en fait, puisque même si c'était fermé, de programmer pour la saison après le Covid. Donc voilà, donc ça me permettait quand même de travailler. Charente Libre m'a permis aussi de travailler en écrivant, puisque j'écris mes textes, ou j'ai coécrit parfois, avec Michel Leblond. Donc là, ça me permettait de continuer à pas perdre la main. J'ai retrouvé mon professeur de claquettes, parce que j'ai fait des claquettes à l'âge de 12 ans, c'était Philippe Moreau, qui vivait à Cognac, qui était imprimeur à l'époque, mais qui a maintenant à Angoulême qui avait monté une énorme école de danse. Et en fait, c'était ma petite sœur qui est chorégraphe, danseuse chorégraphe, qui cherchait aussi à bosser dans la région, parce qu'elle est née ici aussi. Donc j'ai fait le lien entre eux, et puis il m'a proposé de donner des cours de comédie dans son école. Et j'ai dit pourquoi pas, parce que c'est vrai que j'en donnais aussi sur mon bateau théâtre Le Nez Rouge à Paris pour des enfants défavorisés là pour le coup. Et j'ai dit essayons. Et donc et en fait je me suis retrouvé avec une dizaine d'élèves et 10 élèves avec qui je suis resté très très lié, parce que même pendant le confinement, le deuxième, on a travaillé en visio. Et on a refait Le Père Noël est une ordure, mais version tous les personnages confinés. Mmh. Enfin bon. Donc du coup, on a même écrit ensemble, co-écrit, ce qui n'était pas prévu. Et ça fait une petite troupe hyper soudée. Malheureusement, l'école de Philippe a dû fermer après la crise sanitaire parce qu'il avait perdu la moitié des élèves. Mais moi, mes élèves qui sont tous restés. Et surtout, ils m'ont fait une grosse surprise, une soirée surprise où ils m'ont dit « Ouais, nous, on veut absolument continuer avec toi. Mmh. » Parce que ce sont des amateurs, hein, mais pour certains d'ailleurs, il y en a deux qui sont devenus pros. Suite aux cours qu'ils ont pris avec moi. Et donc ça, c'est assez gratifiant, assez chouette. Et puis surtout, voilà, ça leur donne beaucoup de confiance en eux. Et d'arriver à transmettre maintenant de la confiance en soi, c'est très gratifiant et j'adore ça. Et ils m'ont dit, donc moi, nous, on ne veut pas arrêter et tout ça. Donc j'ai dit, bon, il faut trouver une autre salle. J'ai été invité par Martine Nadoir dans cette salle qui s'appelait déjà L'Éperon, parce que c'était un ancien cinéma.
D'accord.
Et elle était professeure et de théâtre et professeure de danse. Et elle faisait une pièce, elle avait 78 ans, c'est incroyable, elle a une pêche d'enfer. Je suis allé voir sa pièce, je lui ai donné quelques points de vue, des conseils, même si c'est permis. Mmh. Et elle a été hyper sympa, et elle écoute, et du coup, je l'ai même conseillé artistiquement sur sa pièce. Mmh. Et puis, au fur et à mesure, elle m'a dit, écoutez, si vous cherchez une salle, puisqu'on en a discuté, elle m'a dit, venez là, et faites vos cours ici. Donc, j'ai ramené tous mes élèves. Enfin, mmh. Et puis, ça a duré un an et demi. Et au bout d'un an et demi, elle avait vachement confiance en moi, tout ça. J'avais les clés du théâtre, du truc, tout ça. Elle m'a dit, voilà, Gérald, maintenant, je vais lever un peu le pied. Et si tu veux, tu peux reprendre la salle pour rien que pour toi, quoi. Donc je me suis retrouvé avec le théâtre entier. Martine continue à donner d'ailleurs encore quelques cours, notamment de la baratère, ce qui est très original, place ou place du corps, tout ça. Et puis le reste, j'ai engagé un danseur qui vient de l'Opéra de Paris, qui s'appelle Yannis Chevalier, que certains Charentais connaissent parce qu'il a fait monter une association qui s'appelle Danse avec Yannis, où il joue à Jonzac, il joue un peu partout. Et il a bossé avec Béjart. Enfin, c'est quelqu'un de très pointu, hyper sympa, hyper généreux. Donc il a monté ses cours chez nous, à Angoulême, avec du moderne contemporain. Il y a une autre danseuse qui s'appelle America Mock, qui elle donne des cours de moderne jazz. Et puis moi, je donne des cours de comédie, aussi bien donc pour des adultes. Et là, ça s'est développé. De 10, je suis passé à 30 élèves. Pour des adolescents aussi, qui sont très bons d'ailleurs, je dois le dire. Et ça me fait bizarre de donner des cours maintenant à des jeunes qui ont l'âge où j'ai démarré,
bien sûr,
dans la même ville, à Angoulême. Et puis aussi à des enfants à partir de 4 ans. Et là, on fait une initiation, c'est des cours d'éveil pour les enfants de 4 ans à 9 ans. Et on fait avec Martine, elle fait initiation à la danse et moi initiation à la comédie dans le même cours sous forme de jeu, de mime. Et j'ai une de mes filles, parce que j'ai trois enfants, trois filles, la dernière qui a 8 ans, qui va bientôt avoir 9 ans, là. Elle a 9 ans aujourd'hui d'ailleurs. Bon anniversaire, Elisa, qui monte sur scène aussi avec moi de temps en temps. Et qui sert d'élève guide aux petits. Alors ça, c'est génial de partager ça en famille, c'est vraiment excellent. Et donc on a monté régulièrement, parce que dans l'apprentissage, je trouve ça intéressant, on a monté des soirées d'un au Comedy Club. Mmh. C'est devenu le nom de l'association qui gère d'ailleurs le théâtre. Et on fait des soirées, on a fait ça à Cognac, au Garage Bar, chez Franck. Et maintenant, on les fait dans mon propre théâtre, Angoulême. Et il y en a une demain, d'ailleurs.
On va écouter votre fille.
Oui.
Elle est là. Voilà, comment elle s'appelle ?
Claire.
Elle s'appelle Claire. Et qu'est-ce qu'elle fait à manger à la maison ?
L'école des fans.
Quoi ?
Des quenelles.
Des quenelles, mesdames, messieurs. Des quenelles. Alors, je vais te poser quelques devinettes. Et toi, Elisa, tu vas devoir improviser des réponses rigolotes. D'accord ? Alors, attention. Et vous allez voir, mesdames, messieurs, qu'elle a de qui tenir. Première devinette, c'est quoi une chauve-souris avec une perruque ?
Une souris.
Une souris. Pourquoi les canards sont toujours à l'heure ?
Parce qu'ils sont dans les temps.
Parce qu'ils sont dans les temps. C'est l'histoire d'un papier qui tombe à l'eau Un papier qui tombe à l'eau, il crie au secours.
J'ai papier.
J'ai papier. Que fait une fraise sur un cheval?
Tagada, tagada.
Tagada. C'est l'histoire de deux patates qui traversent la route. L'une d'elles se fait écraser. Que dit l'autre?
Au purée.
Quel est le crustacé le plus léger dans l'océan?
La balourde.
Il y a trois poussins dans un nid. Moi, je n'en veux que deux. Qu'est-ce que je fais?
J'en pousse un.
Avec quelle monnaie les marins payent?
Avec les sous-marins.
Pourquoi le lapin est bleu?
Parce qu'on l'a peint,
bien sûr. Quelle est la fée que les enfants détestent?
La fessée.
Comment savoir qu'un rat est content?
Il sourit.
Et enfin, où vont les biscottes pour danser?
À la biscothèque,
mesdames, messieurs.
Voilà, donc c'était votre fille, hein, c'est
ouais,
ça.
Elisa, voilà. Elisa. Là, elle avait que 6 ans à ce moment-là. Et voilà, au lieu de lui lire des livres d'histoire, je lui lis des livres de blagues. Et donc là, c'était une interrogation à l'oral, quoi. Et elle a retenu beaucoup de trucs. Elle se souvient de tout.
C'est incroyable.
Elle se souvient de tout. Et parce que quand elle a su que je faisais des soirées avec des nouveaux talents et des élèves qui souhaitent rencontrer le public, parce que après tout la rencontre avec le public, c'est là où on s'aperçoit le mieux où on en est, quoi, dans son travail. Et elle a dit, moi je veux participer absolument. Elle m'a dit, c'est, moi aussi je suis un nouveau talent. Alors je dis, bah allez, chiche. Et puis en fait j'ai l'impression qu'elle va peut-être suivre un chemin artistique.
Pourquoi pas?
Ça, c'est les élèves sur scène.
Le problème, c'est qu'entre Roger et la biche, bon, ben, il y avait Karine, quoi.
Nous, c'est sûr que comme il est hyper stimulé par Marcel, son grand frère, il fait des puzzles pour grand.
Ah, ben oui.
L'incendie de Notre-Dame. Simone, elle a appris à nager l'été dernier. Elle était à la plage comme ça, en train de faire des pâtés, enfin des pâtés, le château de Chambord, avec des créneaux, des petites tourelles et des petits chevaliers comme ça. On leur voyait les yeux avec les cils. Et d'un seul coup, elle s'est levée. Hop, elle a su nager. Et qu'est-ce qu'elle voit loin? Une petite fille en train de se noyer. Une petite fille obèse. Qu'est-ce qu'elle fait? Nue dehors, hein, dans l'eau. Elle a appris à nager. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des requins qui arrivent. Elle sort son coutelas, elle tue tous les requins à sa main. Elle arrive sur la plage, elle réanime la petite fille, elle lui fait du bouche à bouche, elle a une médaille. Et elle est passée chez Jean-Pierre Pernaud sur TF1.
Mais quand je combat, oh là là, je me rassure.
C'est des extraits des sketchs des élèves, pour certains, et donc ils en sont l'auteur ou les co-auteurs, ils travaillent tous ensemble, et avec moi évidemment, qui les met en scène, qui les coach. Et c'est vraiment la jeune fille que vous avez entendue, elle s'appelle Sophie, et je lui fais un clin d'œil si elle écoute. Quand elle est arrivée dans les cours, elle était toute timide, hyper complexée par son physique, parce que c'est une jeune fille qui est assez forte. Elle avait des problèmes pour marcher, tout ça. Elle tremblait quand elle avait une feuille à la main. Et en un an de cours, c'est devenue l'une des meilleures. Mmh. Elle avait trouvé une confiance en elle. C'était... Enfin, j'ai trouvé ça super chouette. Ouais.
Alors, si on veut voir tous les comédiens, oui, demain soir en spectacle.
Alors, c'est au théâtre de l'Éperon. Il y a plus beaucoup de place, mais voilà, c'est au théâtre de l'Éperon et c'est 2 rue des Artisans. J'aime bien l'adresse, ça me correspond. Et voilà, c'est le Daron Comedy Club. Et donc voilà, c'est de toute façon, il y a régulièrement donc et les cours. Vous allez sur et des spectacles qui sont maintenant programmés. Il y a les spectacles des élèves, mais il y a aussi toute une programmation. On va accueillir bientôt l'artiste humoriste Mary.
Au mois de mars, je crois.
Au mois de mars. Il y aura aussi Manuel Pratt. Là, c'est vraiment de l'humour très, très féroce, on peut le dire. En tout cas, borderline. On a aussi David Azencott qui va venir en avril, qui est un roi du stand-up. On va avoir aussi ce qu'on appelle des masterclass où on rencontre un artiste et on discute avec lui toute la journée. C'est très intéressant. Le premier qui va venir, moi je vais en faire une sur l'humour et la liberté d'expression. Ensuite, il y a Margerin, le dessinateur Margerin, qui va venir et ça va s'appeler Spectacle et dessin, parce qu'on va mettre en scène certaines scènes de ces BD. Donc ça, c'est très original. Et puis, il y a aussi une artiste, une chanteuse qui a une technique vocale incroyable, qui s'appelle Claire Mignon et qui est de notre région, et qui va aussi rencontrer et expliquer comment elle travaille la voix.
Voilà, donc tout ça donc pour le prévu pour l'année prochaine.
Oui, oui, ça fait un beau programme. Oui.
Et il y a autre chose aussi.
Oui.
Tiens, je vais vous faire écouter. Vous allez me dire pourquoi dans quelques instants, okay. Gérald.
C'est Jason West.
Alors, pourquoi vous avez décidé ce soir de nous faire découvrir cet artiste ? Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer.
Ouais, tout à fait. Écoutez, ils ont un sens incroyable. Ils sont très très forts à la guitare, c'est incroyable. Ils sont deux frères jumeaux.
Si on peut regarder ça sur votre chaîne
YouTube.
Ah
oui, oui, oui.
Écoutez bien. Hein.
Ils reprennent tous les riffs connus du rock. Ce sont aussi des... Non seulement, ils font des reprises, mais ils ont eu toute une série de chansons, d'albums. Ils sont auteurs, compositeurs, interprètes. Ils ont cette particularité d'être deux frères jumeaux, complètement... indissociables et passionnés de musique depuis qu'ils sont nés. Donc ils ont une complicité, ils arrivent à jouer de la guitare à l'envers, avec les dents, ils jouent tous les deux sur la même guitare. Enfin bon, c'est très impressionnant, très performant. Moi je les ai rencontrés, ils sont venus faire une audition sur mon bateau théâtre à Paris, le Nez Rouge. Je les ai tout de suite pris, je les ai mis en scène. Et puis je leur ai ouvert la porte du Don Camillo, hein, le célèbre cabaret, et donc ils vont faire la première partie de mon spectacle à l'Olympia.
Voilà, l'Olympia,
mon nouveau spectacle qui sera en septembre 2024.
L'Olympia donc à Paris.
Voilà, je retourne à l'Olympia, donc ça c'est vraiment chouette.
Une bonne date. Hein,
ouais, je suis bien
pour 2024.
Voilà,
c'est clair.
Ouais, ouais, c'est l'Olympia, c'est une scène magique, magnifique, et là je vais faire un spectacle particulier où je vais raconter l'histoire de l'Olympia en imitant les voix de tous les artistes principaux qui l'ont fait.
Voilà. C'est voilà. Très intéressant. Il faut savoir que même comme l'Olympia, malheureusement, tous les artistes n'ont pas pu faire l'Olympia.
Et non, c'est... Mais beaucoup y sont passés. Et puis, il y a toute une histoire, la famille Cocatrix,
ouais,
qui est très, très intéressante.
Tout ça.
Ouais, tout à fait.
Pour finir cette émission, parce que ça passe tellement vite.
Oui, ça passe vite quand on a des choses à dire.
On a beaucoup de choses à dire. Pour retrouver vos informations, il y a le...
Oui, alors, il y a soit le site de l'Éperon Théâtre, epronthéâtre.fr, pour le Daon Comedy Club et pour les cours, pour les spectacles. Il y a aussi mes pages sur les réseaux sociaux classiques, Facebook, le compte, la page officielle, le compte pro, le compte perso est saturé. Il y a Instagram, TikTok, et la chaîne YouTube aussi où je suis très actif dessus. Voilà.
En tout cas, merci beaucoup Gérald Daon d'être venu ce soir.
Écoutez, moi c'est un plaisir, j'étais venu ici parce que Charente-Maritime, moi j'ai habité dans les deux, même si je suis né en Charente, c'est la même région pour moi, et j'adore ma région, donc c'est un vrai, vrai plaisir de revenir ici. Voilà.
En tout cas, merci beaucoup de votre venue dans les studios, et puis on vous souhaite une bonne continuation.
Merci.
On finit avec un titre que vous faites sur scène, c'est Poutine avec toi.
Oh là là, oui, alors ça c'est une chanson particulière parce que j'ai réadapté la chanson de Michel Sardou qu'il avait consacrée à Vladimir Ilitch Lénine, et j'ai changé les paroles et j'ai fait Vladimir Poutine, et il y a beaucoup de gens parce que sur YouTube j'ai fait une vidéo où je double son visage, et beaucoup de gens pensaient que c'était vraiment Sardou, même son fils.
Voilà, on va l'écouter. Quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Merci encore de votre fidélité, et n'oubliez pas d'aller demain soir au théâtre
de l'Éperon
du côté d'Angoulême.
Merci.
Et c'est à 20h30. Merci beaucoup.
Merci
et à bientôt. Merci, au revoir.
Au revoir.
Artistes, chanteurs, comédiens,
découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène Ouverte, le magazine de la culture régionale
avec Stéphane Cousinet.
Thank you.
de Sibérie a dévasté l'Ukraine. Les hommes restent debout devant tous ces engins. Des bords du Donbass à la frontière roumaine, les tanks ont écrasé des milliers d'Ukrainiens. Puisqu'aucun dieu du ciel ne s'intéresse à vous, Poutine, réveille-toi, tu es devenu fou. Toi, Vladimir Poutine, sans raison tu rigoles. Toi qui es enfermé dans ton bunker blindé, quand tu crois que ta terre c'est celle de Pologne, tu te prends pour Hitler dans ton cerveau fêlé. Toi Vladimir Poutine, est-ce qu'au moins tu raisonnes en violant les drapeaux de la démocratie et tous les rêves des hommes que toi tu emprisonnes, que tu envoies mourir comme faisaient les nazis. Toi, Vladimir Poutine, ton cercueil c'est ta bombe. Dans combien de temps seras-tu pendu par le cou? Quand on connaît le prix qu'on mettra dans ta tombe, Poutine, réveille-toi, tout le monde devient fou. Ils vont chanter le refrain des victoires. Ce grand pays qui détruira le tsar. Soumission des hommes, tu seras sur l'échafaud quand tu seras jugé, avec tous tes vieillards en petit uniforme. Par la sanction du peuple, ta tête elle va tomber.
Artiste, chanteur, comédien. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène Ouverte, le magazine de la culture régionale.
Avec Stéphane Cousinet.
LNFM, l'esprit local.
Call on me, brother. They will come, then they go to feel alive. You gotta take the blows, you know. Call on me, please.
LNFM, l'esprit local.
On vient, on perd la tête ce soir. On met du soleil dans nos yeux. Parce qu'hier est déjà trop vieux. Parce que demain est illusoire. Viens, on perd la tête ce soir. Ce soir, on vit la vie en mieux. Parce qu'hier est déjà trop vieux. Parce que
LNFM,
102.9
à Sainte.
Je n'ai plus confiance. Quand tout s'effondre et tout devient sombre, je me perds dans mes pensées, comme si j'étais tout seul au monde.
LNFM en live.
C'est aussi sur lnfm.com. FM
à Niort.
Remonter le temps, premier cheveu blanc. J'ai pris un coup de vieux, c'était mieux avant. Remonter le temps, premier cheveu blanc. J'ai pris un coup de vieux.
LNFM
89 FM.
FM
à Surgères.
C'est toujours toi qui dis que c'est toujours moi. C'est toujours l'autre. Alors à qui la faute? Toujours moi qui dis que c'est toujours toi. Mais pourvu qu'un jour nos dilemmes se comprennent et sauf qu'il est. Sauf qu'il est.
LNFM, l'esprit local.